Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chute, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chute, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marais Morin en écoutant Chute, on écoute la télé. Marais Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marais-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chute, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors vous savez pas ? Eh bien on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien oui, c'est parti.
Chute, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au menu de ce nouveau numéro de Chute en écoute la télé, l'hebdo. Aujourd'hui, nous allons vous proposer notre coup de cœur cinéma consacré au film Jouer avec le feu de Delphine et Muriel Coulin, qui sortira mercredi au cinéma en fin d'émission. Nous recevrons Benjamin Voisin et Stéphane Crépon, qui seront nos invités exceptionnels. Dans une poignée de secondes, nous allons recevoir l'équipe du film Neuilly-Poissy. Le film est sorti en mai 2024 au cinéma. Il commence sa deuxième vie en DVD et en VOD. À cette occasion, nous allons recevoir Grégory Boudboul, le réalisateur, Max Boublil et Malik Amraoui. Et puis nos coups de cœur télé cette semaine avec Cécile Bois pour la série Made in France qui a commencé mercredi dernier sur France 2. Et puis on va parler de la soirée spéciale Soumission chimique quand la honte change de camp qui sera diffusée demain soir sur France 2. À cette occasion, l'un des témoins, Reynald, sera notre invité pour en parler. Et puis on a également le bonheur de recevoir celui qui officie aux côtés de Laurence Boccolini dans Les Enfants de la télé chaque dimanche ou encore Tout le monde a son mot à dire, c'est Donnells Jacksman qui va être en tournée partout en France tout au long de cette année 2025. Il vient tout nous dire sur son spectacle, arrêtez ça.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, on va parler de Neuilly-Poissy, sortie de DVD VOD, le film est sorti en salle, c'était le 8 mai dernier. Et on va explorer sa deuxième vie au cinéma avec le réalisateur Grégory Boudboul qui est avec nous. Bonjour Grégory.
Enchanté.
Merci d'être avec nous. Max Boublil qui nous rejoint également. Bonjour Max.
Bonjour, comment ça va ?
Eh bien ça va très très bien. Écoute, on va pouvoir parler de ce film enfin, avec sa deuxième vie en DVD VOD, le film où on raconte l'histoire de Daniel, un entrepreneur qui tout souris, il vit un peu de malversations, de petites combines pour essayer, voilà, d'améliorer le quotidien. Et puis, ben, son bel appartement de Neuilly, et ben, tout ça va se transformer en cauchemar à la suite d'une malversation et il va finir en prison. Et c'est donc sa femme incarnée par Mélanie Bernier qui va devoir rester aux manettes de l'entreprise. Ça va pas être triste tout ça. Et ce que j'ai aimé, Grégory, c'est l'exploration un peu du monde carcéral, mais pour une fois, et c'est rare, explorer sous le thème de la comédie.
Tout à fait, c'est vrai que c'est assez rare le thème des comédies carcérales, et surtout on voulait quelque chose qui soit assez assez dans l'esprit intouchable, c'est-à-dire comédie avec l'humour et de l'émotion, et on est très content quand on voit les réactions des salles, il y a beaucoup de rires, plus qu'on imaginait, et aussi beaucoup d'émotions, des gens qui viennent nous voir à la fin, qui ont les larmes aux yeux, qui disent que c'est vraiment un film qui est important en ce moment avec tout ce qui se passe. Donc moi je suis aussi très content pour un premier film d'avoir une brochette de comédiens aussi prestigieux comme Max Boublil bien sûr et Gérard Darmon, Gérard Jugnot, Claudia Tagbo, même des gens qui ont accepté de faire des petits rôles comme Clotilde Courau ou Anne Charrier. Non, c'est vraiment j'ai une chance incroyable pour un premier film.
La scène avec Gérard Jugnot est à mourir de rire, Max.
Oui, c'est vrai, mais là on le montrait en salle là aujourd'hui. C'est marrant parce que dès qu'il arrive, Gérard Jugnot qui fait le rabbin hein, de la prison, Et dès qu'il arrive, tu sens les gens qui font oh, et ils commencent à rire juste de le voir en rabbin. Et après, ça part dans des. On est très heureux de le montrer parce que ça riait très fort et en même temps les gens étaient touchés à la fin. Ils venaient nous voir en disant vraiment vous nous avez émus, on était transportés dans l'histoire. Et aujourd'hui je pense que c'est une projo qui s'est très très bien passée parce que tu sens quand une salle s'embarque. Alors là c'est sûr on fait la promo pour la VOD, le DVD et tout, mais c'est-à-dire que c'est un film, quand tu commences à le regarder, t'embarques dans une histoire, et parfois, il y a des films qui sont des successions de sketchs, ou des successions de guests, de machins qui marchent pas forcément, mais là, on rentre dans l'univers carcéral par les yeux de Daniel, du personnage principal, et on rentre dans une vraie histoire, comme on ouvrirait un roman, et on est très fiers de ce film, et de voir que les gens réagissent très positivement à ce film.
Alors, ce que j'ai bien aimé aussi, Max, c'est que du coup, Daniel, on va explorer plusieurs... facette de l'homme pour le coup qu'il est, c'est assez rare dans tes rôles justement, parce que tu nous avais embarqué dans une comédie romantique dans les années 90 pour notre plus grand plaisir il y a quelques années sur souvent des films drôles, et là non seulement c'est drôle mais il y a aussi un côté touchant chez Daniel. Il y a des fêlures, des blessures qui apparaissent au fur et à mesure parce que c'est un homme blessé aussi au bout d'un moment, même si au départ il peut paraître un peu péteux quoi.
Oui, c'est une grande gueule. Et ce qu'on aime, ce qu'aime le public, c'est voir un personnage, voilà, qui se la raconte un peu au début et qui va se prendre la vie dans la gueule en allant en prison et tout d'un coup, qui va déguster. Et avec Grégory, le réalisateur, on voulait pas que ça soit un pastiche. Donc, par moment, quand il commence à rentrer dans cette prison, le spectateur rentre par ses yeux dans la prison et il va déguster. Et vraiment, on va commencer à avoir de l'empathie pour lui, à être vraiment triste pour lui et le voir souffrir, parce que c'est sûr que c'est une comédie, mais c'est aussi un drame, ce film. Quand les gens nous font des retours, là, comme tu nous dis, c'est pas que drôle, c'est aussi très émouvant et c'est ce qui fonctionne et ce qu'on voulait faire absolument.
C'est ce qui t'a plu en Daniel, pour le coup, Max, vraiment de pouvoir explorer plusieurs facettes de jeu.
Ouais, moi j'étais très content de faire, bien sûr, plusieurs. Moi j'imagine, c'est vrai que j'ai fait parfois des films qui étaient plus pastiches, mais j'aime toujours les comédies quand elles racontent une histoire, et s'il y avait pas les vannes, ça pourrait être un drame, une dramédie quoi. Et juste faire des sketchs, c'est super, moi je trouve, pour Internet, mais pour le cinéma, pour la fiction, j'aime bien quand il y a un fond toujours.
C'est sûr, puis il faut tenir sur la longueur. Grégory, c'était une évidence, Max ?
Complètement. J'ai vu Danplay, j'avais adoré Max Danplay. Et je trouve qu'en fait, je suis content du travail qu'on a fait. Je trouve que Max est vraiment incroyable dans le film. C'est qu'au début, bon, c'est un Max qu'on connaît, qui est un peu... voilà, il le fait très très bien, un peu facile dans la vie, drôle... bon, ce qui n'est pas dans la vie, mais arrogant, un peu pied noir, tu vois, un peu la vérité si je mens. Et c'est vrai que la gageure, en fait, qu'on avait, c'était de l'amener sur quelqu'un qui arrive en prison et qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on est juif et qu'on se retrouve en prison, ou même quand on est un bourgeois de Neuilly et qu'on se retrouve en prison. Et donc, on voulait vraiment qu'il y ait cette véracité, qu'il y ait cette mise en danger. Et les choses, des moments, qui me touchent beaucoup, c'est quand on voit un comédien, Ludovic Bertillot, qui fait un rôle de gitan, et quand les gens le voient apparaître, en fait, dans la salle, il y a un mouvement de « Oh !» Il y a un mouvement de peur général, parce qu'il y a du rire, mais aussi parfois des moments de peur et d'émotion.
Ah, il envoie aussi du dos, ouais.
Voilà, on est vraiment content d'avoir réussi à avoir cette palette d'émotions pendant une heure et demie.
Exactement. On va écouter un petit extrait justement de Neuilly Poissy, ça sort en DVD et VOD. Et Malik Amraoui va nous rejoindre dans un instant. Bonjour Malik.
Bonjour, ça va ?
Ben oui, on écoute un extrait, tu restes avec nous, ce coup-là. Allez, à tout de suite.
Occupez-vous de faire conduire Monsieur Abissera à la maison d'arrêt de Poissy.
À la quoi, pardon ?
J'ai juste employé des gens au noir, j'ai fait un peu de cash.
Frérot, je fais tellement de blagues que les billets rentrent plus dans le coffre.
Au revoir, Monsieur Abissera.
Allez, tiens.
Tu me restes deux places. C'est soit avec un toxico qui a brûlé son matelas, ou un gitan qui a décapité un mec. Capitaine Flamme ou Highlander ?
Vous pouvez aussi vous tourner vers la religion. Abissera, c'est musulman.
Je suis juif.
Alors ça, en revanche, il faut pas le dire.
Je veux voir un rabbin. Appelle ta femme.
On va pas en taule pour un peu de cash, quoi.
300 000, ma chérie.
Ah, putain.
Mais c'est quoi ton prénom ?
Mon prénom, c'est Mustapha.
Mustapha.
Mustapha ?
Ouais, Mustapha, ouais.
Allez, de retour pour notre spécial, justement, de Neuilly Poissy. Ça sort en DVD, VOD. Et on a Max Boublil, Malik Amraoui et Grégory Boudboul qui sont avec nous. Alors, Malik, on va parler de Samy un petit peu aussi dans le film. puisque évidemment Max Daniel, qui est incarcéré, va faire des connaissances avec le personnage de Steve aussi, Tien Cheu, qui est excellent, qu'on a vu dans Les Misérables, qu'on a vu évidemment dans Bâtiment 5 en décembre dernier. Et franchement, mais non, mais il y a une palette de comédiens, vous êtes tous géniaux, franchement.
Ah, mais il nous a porté, hein. Moi il m'a porté, Steve, hein. Dans le duo, parce que c'est un duo, Steve et moi. Et Julian, la série, qui était là aussi au début. Mais oui, Steve, il m'a porté dans le truc. Hein. Moi,
vous lui menez à vie dure un peu au début. Hein.
Hmm,
vous lui menez à vie dure quand même un petit peu au début.
Ah oui, que ce soit sur le tournage et en dehors du tournage. Hein.
C'est vrai. Ça a été dans les deux.
Ouais, dans les deux, vraiment. Au début, on se connaissait pas et on restait ensemble avec Steve et lui, on le laissait sur le côté. Hein. Il mangeait à la cantine tout seul. On le regardait, on se disait, regarde-moi ce bouffon.
Avec son costard.
Avec son costard 8 pièces. Ah non, je te jure, c'était très drôle. Hein. Mais il l'a mal vécu au début, mais après, on est devenus très copains. Ouais. Vraiment très très copain, c'est la première fois que ça nous arrive.
Comme dans le film presque.
Ouais. Comme dans le film, vraiment vraiment. Mais même pas, ouais c'est vrai, non c'est vrai. Hein.
Qu'est-ce qui t'a plu chez Samy toi, Malik?
Le personnage de Samy, il m'a plu mais au fil du temps parce qu'au début il était vide un peu, c'était une coquille vide. On a essayé de le construire avec Greg parce qu'il n'y avait pas énormément de répliques pour le personnage de Samy. Et il y a eu beaucoup d'impro. On a beaucoup discuté avec quoi, avec Greg pour essayer de construire Samy.
Ah oui, on a fait, je crois qu'on a fait un super travail de répétition, de gags qu'on a trouvé aussi en plus qui était pas du tout prévu au scénario. Et c'est vrai que c'est agréable parce que on sait à un moment où on veut que ça rigole dans le film. Et c'est vrai que avec tout le travail qu'on a fait avec Malik, il y a au moins 3-4 rires en plus et qui sont des rires francs qu'on a vu dans la salle, notamment une improvisation qu'il fait sur le fait qu'il est innocent, tout le monde en prison toujours innocent. Et ça fait plaisir de voir la salle rire à ce moment-là à gorge déployée.
C'est ça qui est chouette. Est-ce que vous avez un moment préféré dans le film, toi, pour le coup, Max?
Moi, franchement, j'aime tout le film. Je trouve que à partir du moment où je croise Darmon, le juge, pour moi, le film
commence.
Il commence avant, mais pour moi, c'est là que je le préfère et jusqu'à la fin, je le suis et tu sens la salle qui part, quoi. Tu sens une salle qui est dans le film, qui réagit, qui rit.
Il a été quand même sélectionné au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Ça veut tout dire. Hein. C'est quand même un gage aussi où on va rire. Évidemment, un personnage dont on va parler, évidemment, elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'est une comédienne que j'adore. Évidemment, c'est Mélanie Bernier qui se retrouve effectivement.
Je suis sûr que là-haut, elle doit bien se marier avec Coluche et...
C'est n'importe quoi. Si elle t'entendait, ça sera répété et amplifié. Bon, Grégory, Mélanie, c'était une évidence elle aussi.
Mélanie, oui, parce que Mélanie et Max dans Les Gamins. Tu vois qu'il y a un couple qui marche très bien. Et en plus, une vraie complicité qu'ils ont eux-mêmes dans la vie. Donc, en fait, il y avait des moments aussi eux-mêmes, dès qu'ils se voient, il y a un automatisme. On les sent très amoureux. On sent comme un couple qui aurait pu exister.
Elle est très en colère quand même après Daniel. Hein.
Elle sait que il s'est envoyé en prison tout seul, Daniel, et qu'elle doit gérer tout le business et gérer toute sa vie dehors. Pour elle, c'est pas facile.
C'était une interview puisque entre Malik et Max. Comment ça s'est passé sur le tournage pour les gérer là?
Maintenant là, tu vois, ils se balancent des cailloux, des verres d'eau, ils se font des blagues. Donc en fait, en gros, quand t'as une énergie comme ça en fait de comédien, faut aller dans leur sens. Et donc on a fait beaucoup de moments où on laissait les prises tourner aussi un peu plus
pour essayer de résister.
Non, c'est trop beau de les voir parce que c'est réel. Et puis comme ça porte aussi un film qui porte aussi un message quand même qui est assez fort sur la fraternité. Voilà, quand je les vois comme ça s'amuser entre eux, rigoler, spécho après les prises, etc. C'est des moments qui sont inoubliables.
Très bien, ils sont infatigables les trois. Neuilly-Poissy, en tout cas, ça sort en DVD, VOD, il y a plein de projets pour eux. Merci en tout cas Malik, merci beaucoup Max et merci Grégory d'avoir été avec nous. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Allez, bougez pas, dans un instant, Donald Jacksman, Cécile Bois, on va parler de la soirée C'est Soumission Chimique, Stéphane Crépon et Benjamin Voisin arrivent dans Chute, on écoute la télé, à tout de suite.
Bouge pas, Chute, on écoute la télé revient dans un instant, à tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
À savoir s'il n'y aurait pas au fond de nos poches une vieille machine à faire des vœux,
à faire sourire quelques mioches, à leur repeindre leur ciel en bleu.
Va savoir s'il n'y aurait pas au fond de nos cœurs
un peu de bonheur qu'on peut donner,
rien d'amour à partager pour de l'espoir à retrouver.
Un, deux, trois petits soleils, comme ce petit bout de rêve qui attend un geste au fond des poches, au fond des poches. Tellement de petits soleils qui brillent bien au fond de leurs yeux.
nos cœurs ne seraient pas sur nos mains, prêts à servir, à faire du bien.
Pour tous ces mômes qui en ont besoin, même pas grand chose, même trois fois rien.
Va savoir si ça ne vaudrait pas la peine
qu'ensemble on tente de faire cette chaîne
qui change leur vie en fête foraine. Au moins le temps d'oublier leur peine.
Un, deux, trois petits soleils, comme ce petit bout de rêve qui attend un geste au fond.
À ses bouts de chou et ses ados.
Va donner, va donner.
L'espoir et le rêve à nouveau.
Va donner, va donner. Parce que ces pièces jaunes peuvent encore parfois se transformer en or.
Et par le petit soleil, comme ce petit bout de rêve qui attend un geste au fond des poches.
Au fond des poches,
tellement de petits soleils qui brillaient bien mieux au fond de leurs yeux qu'au fond des poches.
Au fond de nos poches,
au fond de nos poches.
Au fond des poches,
le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Salut, c'est Christophe Beaugrand, bonjour à tous. Chaque semaine, moi j'écoute Alain Jeanne dans Chut, on écoute la télé.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, il sera en tournée partout en France en 2025. Vous l'adorez certainement dans Les Enfants de la télé. Nous, on l'a déjà adoré dans Demande qu'à en rire, dans La France un incroyable talent, ça continue. Donnell Jacksman est avec nous. Bonjour Donnell.
Bonjour, comment ça va? Merci pour l'invitation.
Écoute, ça nous fait très plaisir de t'avoir. Arrêtez ça. C'est le titre du spectacle qui va tourner, que t'as rodé pendant tout cet automne. Justement, déjà un petit peu partout en France. Un melting pot un peu de tout ce que tu ressens un peu en ce moment de la société française.
Oui, c'est ça. C'est un état des lieux d'un comédien heureux. Je trouve que c'est important de le dire. Je suis heureux dans une société qui va mal. Et je trouve qu'on met tellement l'accent sur les gens malheureux qu'il faut aussi dire qu'on est heureux. Mais être heureux ne nous empêche pas de voir que le monde va mal. Donc c'est ça. C'est un comédien qui va bien, qui voit que le monde va mal.
Et qui a quand même un certain optimiste qui fait du bien, qui est communicatif, la salle rit beaucoup. Et c'est vrai que moi j'ai pu le voir en rodage, c'est mené tambour battant. Et on s'ennuie pas une seconde, on voit pas le spectacle passer. Et ça, franchement, c'est les grands qui font ça.
Bah moi je trouve que le stand-up, la force du stand-up, c'est que quand c'est bien exécuté, on se rend pas compte que c'est dur. Donc moi j'aime bien que ce soit rythmé, que ce soit à flux tendu, qui est vraiment beaucoup de rire, parce que la première des choses pour moi dans ce métier, c'est de rire. Et si derrière le rire peut se cacher un message ou des blagues un petit peu plus profondes, moi c'est ce que j'adore, quoi.
Il y a quelques petits moments d'émotion, vous verrez aussi, évidemment, par moment dans ce spectacle. On va revenir un petit peu en arrière, évidemment. On va revenir dans les années 2010, 12, 13. Là où tout a basculé, finalement, cette rencontre avec Laurent Ruquier, cette émission de Demande qu'à en rire, qui est mythique aujourd'hui. C'est une émission qui est culte, qui a vu éclore toute la génération de comédiens, d'humoristes qui cartonnent aujourd'hui sur les plus grandes scènes de France. Ça a été vraiment une émission tremplin pour plein de monde.
Oui, ça a été vraiment super. Laurent Ruquier a vu toute cette génération-là. On le remerciera jamais assez. Laurent, il a eu une idée brillante. C'est mettre en avant des humoristes et leur donner un espace à la télé dans un horaire assez fort tous les jours. En fait, il y a eu Fabrice avec La Classe. Il y a eu avant le Théâtre de Bouvard. Et il y a eu Laurent Ruquier. C'est les trois grands rendez-vous de l'histoire de l'humour de notre époque. Et Laurent a vraiment mis en lumière tous les humoristes aujourd'hui. Il y avait deux écoles à l'époque. Il y avait le Jamel Comedy Club et Laurent Ruquier. Et Laurent, vraiment, même si j'ai beaucoup de respect pour Jamel et pour ce qu'il a fait, je trouve que Laurent a mis ça à un niveau vraiment national qui était fort. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui encore.
Et accessible à tous, surtout parce que Jamel Comedy Club, c'est quand même Canal beaucoup à la base.
C'était Canal et puis Jamel, c'était peut-être aussi un peu uniformité dans les, peut-être les personnages, dans les thèmes, dans les vécus, là où Laurent, c'était vraiment, et c'est, en plus, il y a une époque où les stand-up étaient même pas à la mode. C'est que nous, les stand-uppers, il y avait Véréno, il y avait Walidia, il y avait Shirley Soignon, il y avait moi, on bataillait à l'époque où le stand-up était pas à la mode. Les gens comprenaient pas pourquoi on voulait pas mettre de perruques, pourquoi on voulait pas mettre des artifices. Une émission comme ça devrait revenir aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'humoristes aujourd'hui et il y a peu d'espace de liberté en télé pour l'humour, c'est dommage.
Et puis ça dingue, c'est qu'elle est culte et vous participez souvent, beaucoup de fois, toi je crois 55 fois si je me trompe pas.
On demande qu'on rire, non, 55 officiels, mais en tout j'ai fait 85 sketchs.
Ah ouais, quand même.
85 sketchs, c'est beaucoup trop. On peut pas être bon sur 85 sketchs, mais ça a été une très belle école parce que Laurent Ruquier nous passait des thèmes le mardi. On avait 2 jours pour les enregistrer, pour écrire, et on l'enregistrait 2 jours après. Et ça nous a vraiment tous permis de. C'est pour ça que dans cette génération-là, tu retrouves beaucoup d'auteurs. Nous sommes des personnes qui avaient appris à écrire grâce à la télé, grâce à Laurent. Parce que souvent en France, il y a ce truc où on aime bien se dire que humoriste ou bien artiste, il faut attendre quand la grâce te tombe dessus, et on a toujours un côté un peu Molière, un peu les grands artistes, les grands auteurs de, il faut que je marche dans un champ et que je cherche mon destin et que la grâce tombe. Et ben non, cette émission nous a montré que pas du tout. Humoriste, c'est comme un pianiste. C'est des gammes. Tu les répètes, et après tu deviens bon. Le cerveau, c'est un muscle. Et grâce à cette émission-là, on a appris à écrire sur commande.
C'est un travail de fou pour le coup. Et puis après, il y a eu le tremplin un peu M6 aussi pendant une saison. T'as pris la suite de notre ami Jérôme Anthony dans La France, un incroyable talent. Ça continue juste avant que Pierre-Antoine Damicourt prenne la suite aussi, que tu t'en ailles sur France Télévisions. Et Donnel, ça aussi, ça a été plein de rencontres parce que La France, un incroyable talent, c'est un vivier d'artistes, mais de tout horizon. Pas uniquement humoristes, mais il y a les gens de cirque, il y a des chanteurs, il y a des chorales. T'as dû en voir, mais c'est incroyable ça aussi.
Il y a des contorsionnistes, des gens qui rentre dans une boîte d'allumettes. C'est vraiment La France en crop talent, c'est vraiment une belle expérience. C'était ma première expérience télé en tant qu'animateur et je l'ai faite aux côtés de d'un ami que j'aime beaucoup qui est Eric Antoine. Il y avait Sugar Sammy, Marianne James que j'aime beaucoup et Hélène Segarra. Moi j'animais l'émission d'après, mais on se croisait beaucoup et j'étais vraiment comme dans un cirque. Il y avait des disciplines que je ne connaissais pas, des disciplines qui me bluffaient. Il y avait des artistes étrangers, il y avait des, ça allait de trucs très brillants à des trucs débiles comme ce youtubeur qui se change en 3 secondes, il cache son sexe, il y avait des trucs vraiment farfelus, mais c'était vraiment moi la plus belle entrée en matière dans la télévision parce que j'étais auprès des artistes et auprès de ce que j'aime, quoi. J'étais vraiment dans le cœur du show.
Mais tu sais ce que c'est en plus. Ouais. Voilà, donc de faire la scène et ça c'est chouette. Et puis les enfants de la télé, évidemment, côté de Laurent Ruquier, maintenant Laurence Boccolini, où tu officies chaque dimanche soir à 18h, avec un peu cette lettre ouverte, hein, en fait, en quelque sorte. Hein.
Oui, c'est les enfants de la télé. En fait, moi, la télévision, moi, mon cœur de métier, c'est vraiment la scène. Je ne fais pas de la scène pour faire autre chose. Je fais de la scène parce que j'aime la scène. Si je pouvais faire que de la scène toute ma vie, ça m'irait. Tout ce qui vient après, c'est des cases que j'avais pas cochées. Quand je fais La France a un incroyable talent, dans mon CV, j'avais jamais coché que j'aimerais faire de la télé. Quand France Télé m'appelle pour que j'anime Surprise Surprise, je revois le gamin que j'étais dans ma banlieue à Villiers-le-Bel qui regardait le soir avec sa maman Surprise Surprise. Et quand on me dit que tu vas l'animer, j'étais fier que ma mère puisse s'asseoir et me regarde animer l'émission qu'on regardait enfant. Donc,
ouais, c'est sûr, avec Tom Villa et Laurie Tillman, c'était génial. Une belle aventure, ça aussi.
Et tout ça, c'est vraiment des plus, quoi. Tout ce qui m'arrive en plus de la scène, je le prends comme vraiment un des cadeaux de la vie parce que moi, ce que j'aime, j'avais un rêve, c'était de monter sur scène et de faire rire. Et moi, j'ai atteint mon objectif. Le reste, c'est que du plus.
Et ben, en tout cas, tu continues à nous faire rire le dimanche soir, tous les dimanches soirs. Et dans Arrêtez ça, qui va tourner partout en 2025. On va y revenir justement maintenant. Ça y est, à ce spectacle. Maintenant, on a fait un petit peu tout ton parcours en accéléré. Mais effectivement, tu racontes un peu beaucoup de choses dans ce spectacle qui, des fois t'irritent un peu ou des fois te font rire. Tout le monde s'y retrouve finalement. Tout le monde peut s'identifier assez aux personnes dont tu racontes des fois le parcours.
Oui, parce que moi, j'ai toujours un...
Dont Manu. On sent que t'es un amour particulier quand même.
Manu, Emmanuel Macron et moi, c'est Je t'aime moi non plus. Parce que dans mon ancien spectacle qui s'appelle On ne se connaît pas, on ne te juge pas, j'avais subi un acte raciste à Nice. Un spectateur m'avait insulté dans le spectacle. Et l'affaire était montée jusqu'à l'Élysée. Et Manu m'avait appelé. Donc, on était en bon terme avec Manu. Et là, maintenant, je trouve que je fais partie des déçus de Manu, mais mon spectacle n'est pas anti-Manu, et c'est pas un spectacle vraiment sur la politique. C'est vraiment le point de vue d'un citoyen qui comprend pas les paradoxes de ce monde. C'est vraiment moi,
c'est comme une majorité de gens, hein, mine de rien, dans la salle, hein, au spectacle qu'on a pu voir, nous, c'était ça. Hein.
C'est un spectacle d'un naïf éveillé, en fait. C'est ça. Je vois très bien où va ce monde, mais j'ai quand même la naïveté de me dire non, on n'ira pas là. On va pas creuser plus. On va pas. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui attend rien, mais qui est déçu quand même. C'est ça, en fait.
Alors, tu racontes aussi ton premier toucher rectal. Et j'avoue que pour ceux qui n'ont jamais vécu ça encore, tu nous as mis une petite larmichette quand même. Hein.
Oui, il y a un passage sur un toucher rectal qui va... C'est malheureusement un rendez-vous que vont subir beaucoup d'hommes dans leur vie. Et moi, c'était beaucoup trop tôt et j'étais pas assez prêt. Et je l'ai très très mal vécu, mais c'est ce qui est beau dans notre humour, dans ce métier-là, c'est que des situations cocasses ou inattendues, parfois débouchent sur de très bons sketchs.
Exactement, et vous verrez que c'est à la fois un très bel hommage aux femmes qui en découlera, voilà, mais on n'en dit pas plus.
Ouais, c'est vrai, moi mon humour a toujours été comme ça, on me dit souvent que je suis un artiste engagé ou parfois que je suis un artiste féministe. Moi, je sais pas ce que ça veut dire féministe. Moi, j'ai été élevé par une maman seule qui a élevé 4 enfants. Donc moi, j'ai toujours été habitué à être avec des femmes. J'ai 2 sœurs et je sais pas si je suis féministe, mais vouloir que les femmes respirent comme nous, je sais pas si c'est féministe. Pour moi, c'est juste un truc d'humain.
C'est juste normal.
C'est normal.
Exactement. Tu nous en raconteras d'ailleurs quelques-unes avec ta maman. Tu parles de ta maman aussi dans le spectacle. Il y a beaucoup de choses, d'intime dans ce deuxième. T'as réussi à tout mettre? Ou est-ce qu'il y a déjà des petites cartouches qui sont gardées peut-être pour un troisième spectacle ou peut-être de façon ponctuelle ou pour des émissions spécifiques?
Je pense que mon spectacle, en fait, comme je suis un artisan de la blague, comme je prends beaucoup de temps pour écrire mes spectacles, j'ai toujours un surplus. Et ce spectacle-là, il y a déjà beaucoup de choses, mais le surplus, je le garde pas pour un autre spectacle. Pour moi, en fait, ma créativité, c'est spectacle par spectacle. Tout ce que j'ai écrit là, ce sera pour ce spectacle ou bien pour les réseaux sociaux. Mon prochain spectacle, j'ai déjà des bribes de thèmes dans ma tête. Ce sera encore autre chose. J'aime bien à chaque fois me réinventer tout en ne déstabilisant pas trop ma fanbase, quoi. C'est ça qui est compliqué. C'est se réinventer tout en ne déstabilisant pas trop les gens.
Vous avez envie de rire, de passer un bon moment. Ça fait du bien. Ça fait oublier un peu tout, l'espace d'une heure et demie. Et franchement, on passe un super moment avec toi, Donnel. Et puis, on te retrouve évidemment tous les dimanches soirs chez Laurence Boccolini maintenant, hein. Faut s'y faire, hein. Avec, évidemment, les enfants de la télé. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour 2025? Cinéma, télévision? Parce que t'as commencé aussi un petit peu dans l'année de ce côté-là pour 2025.
Là, non. Pour l'instant, c'est beaucoup spectacle, tournée. Et télé, il y a quelques primes qui vont arriver, les enfants de la télé toujours, et puis aussi à 18h, ma petite récréation, tout le monde a son mot à dire, qu'on fait le 18h avec...
Tu es sociétaire.
Sociétaire avec tous les copains, et puis on rigole, on aide des candidats à gagner de l'argent, et nous parfois on se plante sur des blagues, et on passe pour les débiles aux yeux de la France, donc c'est très très rigolo comme émission.
Bon courage en tout cas pour la suite, merci Donnel.
Merci à vous, et puis... Merci de soutenir l'humour et restez comme vous êtes. À très vite.
Reste comme tu es aussi. Merci, à bientôt.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Voilà, c'est le final de Erika. Évidemment, notre coup de cœur télé va à cette série qu'on suit depuis début janvier sur TF1. C'est l'événement de cette rentrée. Jérémy Crédville est avec nous. Bonjour Jérémy.
Salut.
Alors, on peut dire que t'es dans un rôle, on t'attendait pas du tout, hein, clairement.
Ouais, et je suis content parce que moi justement je l'attendais ce rôle. C'est plus intéressant de jouer quelqu'un aux antipodes de ce qu'on est plutôt que le mec sympa, un peu débile que je suis.
Alors écoute, j'aurais pas dit ça comme ça, mais moi j'aurais dit d'habitude, là c'est la comédie, là c'est chouette qu'on aille te chercher pour quelque chose, tu puisses montrer l'étendue de ton talent. Et franchement, tu m'as bluffé, on en discutait avec Maud il y a encore quelques semaines, Maud Baker qui est ta partenaire, m'a dit Jérémy Crédville, il est bluffant. Et nous, tu nous as fait flipper, hein.
Mais tant mieux, c'est le but aussi. Moi, j'avais pas beaucoup de jours de tournage sur cette série, mais il fallait que le personnage soit marquant. Donc, dans l'idée, il fallait vraiment pousser les curseurs au maximum. Donc, quand on me dit joue le connard à fond, je joue le connard à fond.
Comment tu t'es préparé à ça? Est-ce que c'est plus facile, justement, que de faire de la comédie là?
Ouais, c'est plus simple parce qu'en fait, la comédie, c'est assez subjectif, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont faire rire certaines personnes et d'autres pas du tout, alors qu'on essaie de les faire marrer. Alors que pour le coup, ce personnage-là, je pense qu'il met tout le monde d'accord. C'est-à-dire que tout le monde est OK pour dire que c'est pas un type bien, quoi. Donc pour moi, je trouve ça plus simple à faire.
Je me rappelle du premier rendez-vous qu'on a eu ensemble, c'était à l'Alpe d'Huez, justement. On se retrouve à nouveau à ce festival. C'est une grande histoire aussi, hein, l'Alpe d'Huez.
Ouais, clairement. Et puis ça donne envie. Là, rien qu'en voyant le film d'hier, je vois qu'il y a aussi de plus en plus d'humoristes dans les rôles. Alors avant, c'était des rôles secondaires. Maintenant, ils arrivent dans les rôles principaux. Donc c'est hyper agréable à voir et motivant.
Qu'est-ce que t'aimerais, toi, justement, qu'on te propose peut-être comme premier rôle un jour ?
Moi, c'est pas forcément le premier rôle qui m'intéresse. Tu vois, par exemple, le rôle de Benjamin Tranier hier, je le trouve hyper intéressant, hyper marrant, parce que c'est pas le personnage que tu vois tout le temps, mais il est marquant. En fait, moi, je veux des rôles marquants. Pas forcément être à l'image durant tout le film, mais que même si c'est un passage de 3 minutes, les gens s'en souviennent.
Pour revenir sur Erika, quel souvenir tu garderas justement du tournage dans les Landes ?
J'ai eu la chance de tourner avec la même équipe avec laquelle j'avais tourné pour les randonneuses. Donc ils me connaissaient assez bien. Il y en avait quelques-uns qui ne me connaissaient pas, mais 80% de l'équipe me connaissait. Donc j'étais content de voir leur tête quand je jouais ce rôle-là, parce qu'eux me connaissaient. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, je leur disais, je ne suis pas comme ça dans la vie, tu vois, pour les rassurer. Donc moi, ce qui m'a marqué de ce tournage, c'est de voir l'équipe avec laquelle j'ai eu la joie de tourner un truc plutôt comédie, qui me voit dans un rôle plus sérieux et dramatique, et de voir que c'était crédible, quoi. Je les sentais même touchés, voire gênés. Ils avaient envie de me mettre des claques. Du coup, c'était le but.
Alors, tu joues le beau-frère de Erika, qui malmène quelque peu sa sœur. C'est le moins qu'on puisse dire. On va dire qu'interprété par Maud Baker, qu'on adore, qui est une amie d'émission et qu'on aime profondément, justement. Tu la connaissais avant, Maud ?
Ouais, on s'est croisé sur L'amour presque parfait.
Mais oui, c'est vrai. Sa mini-série pour France 2.
Elle a eu, elle auditionnait pas pour le premier rôle féminin. Elle n'était pas présentée pour ce rôle-là. Moi, j'étais présenté pour le premier rôle masculin. Finalement, j'ai pas eu le premier rôle masculin. Elle a eu le premier rôle féminin. Mais on s'était vu pour ce qu'on appelle un callback. Donc ça veut dire que c'est les derniers essais avant d'être pris. Et on avait répété des scènes ensemble parce que elle n'était pas prévue sur des scènes. Donc on avait bossé ensemble et je l'avais tout de suite apprécié. C'est une pile, cette nana. Elle parle hyper vite, elle pense hyper vite. Elle est toujours joyeuse, toujours contente de retrouver les gens, et hyper pro, quoi. C'est-à-dire que quand tu la vois dans ce rôle-là, rien que son débit de parole n'est pas le même que dans la vie. Et elle est hyper touchante. J'adore cette nana.
C'est vrai qu'elle fait passer tellement d'émotions. Maud, on l'embrasse d'ailleurs, je sais qu'elle nous écoute régulièrement. Jérémy, on t'a quitté à la fin du 4e épisode où Erika, clairement, t'as reculé dessus. Donc dans ces deux derniers, on peut dire que ça va être un personnage mal en point qu'on va retrouver.
Je tiens encore debout, toujours vivant, toujours debout. Je vais peut-être être pas trop présent dans l'épisode 5, mais il y a peut-être un retour assez...
En force.
Retour plus qu'en force pour l'épisode 6, ouais. Pour le dernier.
On va suivre ça. Alors, Erika, ça va être une série, on espère, sur plusieurs saisons, puisque vous avez remarqué peut-être que chaque soirée, c'est un double épisode bouclé. Donc, c'est une nouvelle enquête en même temps que vont mener Erika et son flic préféré maintenant, hein, je crois qu'on peut le dire aussi, Patrick. Donc, on va découvrir ça pour cette dernière enquête, en tout cas. Si à saison 2, toi, t'as envie d'y retourner, en tout cas, si ton personnage devait être amené à rejouer d'autres choses.
J'ai eu, justement, les producteurs de la série au téléphone, vu le succès qu'elle rencontre. Donc il y a possiblement des chances qu'on me voit dans les saisons prochaines.
Je crois qu'en tout cas c'est bien parti vu les audiences et en tout cas c'est vraiment réussi. Donc voilà, bravo à toutes les équipes, en tout cas pour Erika qu'on a suivi depuis début janvier. On va parler de ton spectacle un peu, mon cher Jérémy, aussi. Parce que là, je crois que tu as une tournée avec avec Montreux.
Oui, le Montreux Comedy Festival part en tournée de Zénith. Ils se sont dit, le festival à Montreux c'est bien, mais il y a beaucoup de gens qui regardent ça depuis leur smartphone ou ordinateur chez eux. Ce serait bien aussi d'aller de ville en ville en France, vu que c'est très sollicité et que c'est francophone. Et donc on s'est dit que des Zéniths, c'était des salles assez correctes pour faire ça.
Mais tu m'étonnes. Et toi, tu reviens sur scène en septembre pour ton spectacle, un nouveau spectacle.
Exactement, qui s'appellera Enchanteur, 10 sketchs, 10 chansons. Voilà, il y a des chansons que les gens auront déjà entendues sur France Inter, mais qu'on a réinstrumentalisées. Entre deux, j'aurais pris des cours de chant. Et puis il y en a des tout à fait inédites que les gens vont découvrir sur scène.
Alors toi qui as fait quelques émissions... Oh, tu sais que tu as été notre poulain dans Danse avec les Stars, ouais. Pour le coup. Quelle autre émission tu rêverais peut-être de faire ? Est-ce qu'on t'a déjà proposé des Pékin Express ou des choses comme ça ?
Il m'avait proposé une émission d'aventure. Non, mais alors ce qui est marrant, c'est que je rêvais de faire Masked Singer et on me l'a proposé l'année dernière et je l'ai fait. Donc j'étais très heureux de faire cette émission parce que j'ai tenu longtemps dans l'émission parce que je suis arrivé en finale et ils avaient du mal à m'identifier au départ. Donc j'étais assez heureux du parcours et puis j'ai pu... découvrir la chanson avec une coach vocale et tout, donc c'est, c'est autre chose. Puis moi, ça me plaît beaucoup cet univers-là, donc j'étais très heureux de le faire.
Et autre, The Island, des choses comme ça au Pékin Express.
The Island, il m'avait proposé, ouais, mais j'avais pas le temps et je me voyais pas faire ce concept-là pour l'instant.
Bon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Que ça continue comme ça. Moi, j'aime bien ce petit parcours de carrière ascendante continue, qu'il n'y ait pas de break et que voilà, que je continue de bosser un petit peu partout comme ça. Moi, j'adore.
Et comme ça, c'est l'occasion de se retrouver quasiment une fois par an comme ça pour un petit rendez-vous annuel.
Yes, exactement.
Merci, rendez-vous. Mon cher Jérémy.
De rien, rendez-vous l'année prochaine.
Exactement, et puis rendez-vous surtout avec Erika, le grand final sur TF1 et TF1+. Vous pouvez, si vous n'avez pas encore vu la série, découvrir l'intégralité.
Exactement, bon visionnage.
Merci à toi.
Merci.
Le bonheur qui traversait son corps suspendait le temps.
Arrête de bouger.
Depuis la naissance, je suis crevée. Je fais plus rien. J'écris plus. J'ai envie de rien.
Tu pourrais peut-être prendre contact avec...
Arrête avec les mamans du quartier. Elles sont insupportables.
Il faut attendre d'avoir le lapin de parole pour s'exprimer.
Qu'est-ce que tu veux partager avec nous aujourd'hui, Erika?
Ce serait pas mal de lui parler des enquêtes pour allumer l'étincelle.
Trauma intercrânien avec coup de pagaie. Au moins 3.
Le liquide qu'on a retrouvé dans l'estomac, c'est de la cendre.
Dans un internat religieux, une jeune fille qui refusait d'obéir, on est forcé à manger une cuillère de cendre.
Patrick, Patrick, Maya a disparu.
Erika, la saison s'achève, lundi à 21h10 sur TF1. Et retrouvez les épisodes précédents gratuitement en streaming sur TF1+.
Et notre coup de cœur télé demain soir sera consacré au documentaire exceptionnel de Linda Bendali, Soumission chimique, la honte change de camp, avec un des témoins qui est justement avec nous, Reynald, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va découvrir ce documentaire exceptionnel qui fait suite un peu aussi au procès du siècle des viols de Mazan qui a été rendu public il y a maintenant quelques jours. Et il faut dire que voilà, si ça peut faire avancer les choses, c'est une grande soirée spéciale qui nous attend avec un documentaire, des témoignages forts, dont le tien, Reynald, puisque tu as été victime toi aussi il y a maintenant voilà un petit peu plus d'une trentaine d'années de violences sexuelles, on peut le dire, hein, je crois.
Oui.
Et voilà, aujourd'hui tu témoignes. Qu'est-ce qui t'a poussé à témoigner, à vouloir parler?
Alors, ce qui m'a poussé à vouloir témoigner, c'est que il est temps que les choses avancent. Moi, j'ai été agressée sexuellement, j'avais 17 ans. Ça a été un poids. Je m'en suis délestée grâce à Linda. Et il est temps, en fait, que les gens comprennent que ça arrive beaucoup trop souvent et que on se tait. Il faut pas se taire, il faut parler. Moi, j'ai eu la chance d'avoir deux thérapeutes qui m'ont beaucoup aidée pour pouvoir affronter ce qui m'était arrivé. Et j'ai décidé de témoigner à visage découvert sur mon histoire pour que on puisse comprendre que malgré ce traumatisme que j'ai eu, on arrive à se reconstruire. On arrive à se reconstruire en parlant, on arrive à se reconstruire en divulguant une partie de son histoire. Moi, je la divulgue quasiment 32 ans plus tard pour montrer qu'on peut se reconstruire. Mais montrer aussi qu'il faut absolument témoigner et que ça peut arriver à tout le monde. J'ai eu une expression qui dit « quand on est petit, les monstres, on nous dit qu'ils sont toujours sous le lit. Les monstres, ils sont pas toujours sous le lit, ils sont à chaque coin de rue. Quand on sort, il faut toujours être vigilant à son verre. Un verre qu'on nous offre, eh ben, faut faire très attention parce que le verre, il peut être piégé. Et après, on part dans des histoires compliquées qui peuvent être très destructrices. Moi, j'ai eu vraiment cette chance d'avoir deux thérapeutes qui m'ont beaucoup aidé à pouvoir me reconstruire face à la culpabilité que j'ai portée. Parce que j'ai porté une culpabilité pendant des années alors que je suis victime de cet agresseur. Et il est important aujourd'hui de parler. Il faut absolument que les gens qui pratiquent le fait de droguer des verres, le fait d'abuser sexuellement sous drogue, soient punis. Il faut que les lois changent. Il faut que la cause avance. C'est vrai que l'affaire Pellicot a eu un gros rebondissement. Moi, j'avais été contacté par Linda Bendali à la suite d'un tweet que j'ai fait il y a quelques années en arrière face à un jeune à qui il était arrivé sensiblement la même chose qu'à moi. Et ce jeune était en menace de suicide parce que encore dans le placard, parce que pas possibilité de pouvoir parler. Et la toile, elle a des fois des bonnes variations. La toile, elle est là aussi pour pouvoir entendre et pour pouvoir apporter un soutien. Moi, le fait de décider de témoigner, c'est surtout pour libérer cette parole. Il est important que la honte, elle change de camp et que l'impunité qui est faite face à ces agressions soit terminée. Il faut que les lois, elles changent.
Ouais. Alors, le documentaire et le fil rouge, c'est vraiment Caroline Darian, qui est la fille de Gisèle Pellico, fille d'un bourreau. Ça doit pas être facile non plus, mais on va y découvrir tout plein de témoignages d'anonymes comme toi, comme Zoé, comme Céline, comme Léa. On va tous vous découvrir aussi des histoires totalement différentes, des modes opératoires aussi qui peuvent changer avec le temps. Toi, c'était en 1993, mais on a eu très peur ces dernières années avec aussi l'histoire des piqûres dans les différentes manifestations aussi qu'il pouvait y avoir, où tout le monde se demandait effectivement ces piqûres ce qu'il en était, mais il peut y avoir des modes opératoires qui changent aussi au fur et à mesure du temps avec les technologies, donc il est important de rester toujours sur ses gardes en tout cas.
Ah mais toujours, toujours. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les agressions sexuelles sous camisole chimique, la plupart du temps, c'est plus du GHB. C'est ce qu'on va trouver dans les pharmacies. Donc il y a des projets de loi avec des modifications au niveau des laboratoires pharmaceutiques pour que certains médicaments aient des colorants et des goûts spécifiques pour qu'ils soient détectés. Aujourd'hui, les agressions sous camisole chimique, la plupart du temps, c'est fait aussi avec des médicaments qu'on arrive à trouver en pharmacie.
Moi qui te connais depuis quelques années, pour le coup, Reynald, c'est très touchant pour moi de t'avoir avec moi en ligne, parce que j'ai l'impression qu'il y a très peu de monde qui était au courant de tout ça. Le fait de le rendre public, est-ce que c'est quelque chose que tu t'es préparé à vivre aussi?
Alors, c'était mon fantôme du placard. Je n'ai avoué mon agression sexuelle à ma maman que l'année dernière, par le tournage auquel j'assistais. Oui, peu de personnes étaient au courant. Mon mari était au courant. C'est toujours compliqué d'en parler un petit peu. Mais je veux montrer, en fait, par ce témoignage, qu'on arrive à se reconstruire. On arrive à être différent, à être plus jovial, même si il y a une part d'ombre. Part d'ombre. Le but du jeu, c'est de, entre guillemets, de jamais la montrer. Là, en décidant effectivement de témoigner, je suis prêt à entendre les choses des gens. Mais moi, ce que je veux pas, c'est que le regard des gens change. Ils me connaissent avec ma joie de vivre, avec.
Ah ben bah oui, t'as toujours le sourire, t'es d'une jovialité sans nom permanente et c'est vrai qu'on peut pas soupçonner ce genre de choses et c'est ça peut-être encore plus dur. Et moi, ce que je trouve bien, c'est ce courage que tu as eu, voilà, d'affronter ça pour faire avancer justement les choses, parce que le but de la soirée de ce soir, il est là, c'est justement faire avancer les choses, faire comprendre que les gens fassent peut-être plus attention, que les parents fassent plus attention à leurs jeunes qui sortent de plus en plus jeunes aussi. Donc il faut, voilà, je trouve ça hyper important. Pourtant, hyper courageux ce que tu fais en tout cas.
Oui, et puis le message qui est important aussi à entendre, c'est qu'un non, ça veut dire non. Il n'y a pas de oui, mais. Quand c'est non, c'est non. Et ça, c'est je pense, la base de l'éducation qu'il faut apporter aux jeunes. Parce que le oui, mais, non, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être.
La reconstruction, c'est la phase principale, on va dire. C'est presque un travail de très très longue haleine qu'il faut faire. En tout cas, il faut se faire aider, on le dit encore. En tout cas, ça peut aider que la honte change de camp. Soumission chimique, c'est un rendez-vous à ne pas rater qui sera suivi d'un débat présenté par Carole Gessler. Et on va saluer évidemment le travail de Linda Bendali qui a fait un travail énorme justement auprès de vous, qui a su aussi montrer toute sa pédagogie pour vous laisser vous exprimer aussi face caméra. Donc voilà, bravo à elle aussi. Et puis bravo à toi, voilà, bravo pour ce courage, en tout cas exemplaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Reynald.
Merci beaucoup.
Et puis on te dit à très vite, en tout cas, Soumission Chimique, demain soir, 21h10 sur France 2, on ne rate pas. Voici tout de suite un petit extrait.
Ces 4 dernières années, jusqu'au procès, je m'étais souvent sentie seule. Lanceuse d'alerte, dans une société qui refusait d'entendre l'histoire de ses victimes droguées pour être violées. Des victimes qui aujourd'hui se dressent et témoignent dans ce film à visage découvert, à mes côtés.
C'est le viol parfait, c'est le viol qui laisse pas de traces.
J'ai vraiment le sentiment que mon corps me lâche et que je suis spectatrice de la scène.
Des survivantes qui racontent comme ma mère des réveils sans souvenir.
Combien ils étaient, qui c'était, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, tout ça je le saurais jamais.
La soumission chimique est le stade ultime de la domination masculine.
Au-delà d'une lâcheté extrême, c'est la volonté de posséder coûte que coûte.
Il est le maître et il le dit régulièrement. Je te possède.
C'est le réduire à rien
tu es ma chose.
Et notre coup de cœur télé est consacré bien sûr à Made in France qui continue cette semaine sur France 2 mercredi soir. Vous allez découvrir le 3e et le 4e épisode après avoir peut-être découvert les deux premiers mercredi dernier sur France 2. Sachez que vous pouvez encore les découvrir d'ailleurs sur France.tv bien sûr et en intégralité pour cette série. Et Cécile Bois, l'interprète de Rita, est avec nous. Bonjour Cécile.
Bonjour tout le monde, bonne année.
Bonne année à toi aussi, il est encore temps effectivement. Ma chère Cécile, on était ensemble il y a quelques semaines pour Signalement et on a terminé l'année ensemble, on va la redémarrer ensemble avec ce super projet pour ceux qui ont raté, on va dire les deux premiers épisodes. Rita découvre que son mari, elle travaille dans un garage et assiste son mari qui est carrossier et elle va découvrir qu'il la trompe avec une femme complètement aux antipodes d'elle, une femme qui travaille dans la haute couture de luxe et dans la maison Vallière. Et elle va aller se confronter à elle et l'inattendu va se produire puisqu'elle va la recruter en tant qu'assistante. Et évidemment, on s'est quitté sur les deux épisodes où Olivier, interprété par Thierry Neuvik, vient de découvrir le poteau rose et demande des comptes à Olympe. On s'est quitté là-dessus en plein suspense. Mais chaque épisode aussi raconte une histoire aussi à la fois. Qu'est-ce qui t'a plu en premier dans Made in France ?
La comédie, et comme je sais à quel point c'est un exercice très difficile, la comédie, en écriture et en jeu, il se trouve que c'était une comédie intelligente, très bien écrite, très bien calibrée, avec beaucoup de rebondissements et plusieurs couches de possibilités, d'interprétations de ce qu'on veut faire passer. Donc voilà, je trouvais que cette comédie était particulièrement riche, intelligente, mais pas que. Il y avait aussi la représentation d'une femme qui, au début, ne subit pas, elle est très heureuse dans sa vie. Elle a fait le choix de la collectivité à travers son mari, ses enfants, l'éducation de ses enfants, les courses, le ménage, assister son mari gratuitement, ça pose aucun problème, jusqu'à ce qu'elle voit Olympe, donc jusqu'à cet accident, tout à coup, de la collectivité, elle va passer à l'individualité, à se rappeler à son statut personnel pour entamer un parcours un peu plus solitaire, mais qui va lui ressembler sûrement plus, et elle va errer à travers Olympe et à travers l'indépendance de cette femme. Elle va se découvrir, parce que je ne suis pas sûre qu'elle l'ait fait avant. Et donc, c'est un personnage qui va évoluer, qui au début ne sera pas comme à la fin. Tout ça m'a donné très envie de le jouer, de faire partie de l'aventure, aussi bien au niveau de la qualité de l'écriture que du fait que ce soit une comédie. Et moi, en tant que spectatrice, j'ai très envie de comédie depuis. J'en avais déjà envie avant, j'en ai eu envie pendant et j'en ai toujours envie après.
C'est vrai qu'avec Candice, tu nous as gâté au niveau comédie policière. Bah, on est dans un tout autre style. Et c'est vrai que Rita, on la voit évoluer déjà avec les deux premiers épisodes qu'on a vus mercredi dernier. Là, les deux suivants, vous allez voir encore une Rita qui prend un peu plus d'assurance, d'importance aussi. Alors qu'Olympe, depuis le début, hein, on voit que c'est quand même la femme forte.
Ah ben, c'est la femme forte, c'est la femme puissante, comme on entend. C'est la femme indépendante, c'est la femme ambitieuse. Celle qui se bat dans une entreprise d'hommes, qui espère obtenir le poste auquel elle prétend et qu'elle mérite au demeurant, qu'elle est d'ailleurs quasiment persuadée d'obtenir, et toutes les coulisses pour pouvoir y parvenir et tous les doutes qu'elle peut avoir. Et puis voilà, elle a été un peu décanillée par cet homme qui est mon mari, qui a réveillé en elle des sentiments qui sont rangés dans un tiroir pour pouvoir accéder à le poste qu'elle souhaite, quoi. Donc voilà, il va y avoir un effet de miroir entre les deux. Je pense que Rita va apporter un peu d'humanité et de vérité à Olympe, et Olympe va apporter un peu de sa force, de sa conviction et de sa féminité aussi sûrement à Rita, et le tout malgré elle.
Alors ce troisième épisode mercredi sera beaucoup centré sur le personnage d'Aran, justement, qui est ce jeune créateur dont il est tombé sous le charme de Rita, on peut le dire comme ça. C'est grâce à lui d'ailleurs que Rita a été embauchée définitivement. Il va être en panne d'inspiration dans ce premier épisode. On va découvrir comment Rita va tenter de le pousser à créer. Et puis un deuxième épisode qu'on découvrira aussi mercredi, qui va offrir de belles scènes, en tout cas de duo avec Thierry Neuvik.
Oui. On n'avait jamais travaillé ensemble avec Thierry. Ça a été très évident. Thierry est quelqu'un de très facile, très, très disponible au jeu de l'autre. C'est très, très agréable en toute simplicité d'échanger des scènes avec lui, quelles qu'elles soient, parce qu'on a eu des scènes qui étaient difficiles ensemble. Et il a toujours été offert au jeu. Et ça, c'est délicieux. Mais Antonia, c'est pareil. Elle n'a pas de carrière en France. Elle a une carrière internationale. Elle vient là de jouer. Elle a été choisie pour jouer dans le premier long métrage de Johnny Depp. Donc, c'est pour mesurer un peu la singularité.
Mais incroyable.
Donc, c'est quelqu'un qui est rauque, qui est assez spectaculaire. Moi, je l'ai vu à la lecture, je suis tombée amoureuse direct. Hein. Une espèce de grande perche avec un sourire éblouissant. Et c'est une fille qui travaille énormément, une fille qui réfléchit beaucoup. Ses scénarios étaient pleins d'annotations. On est très différentes toutes les deux. Je suis très sédentaire, c'est une grande voyageuse, pour ne dire que ça. Mais c'est quelqu'un de profondément chaleureux, humain. Mais ça a été un gros coup de cœur, voire un coup de foudre sur la comédienne qu'elle est, mais aussi la personne merveilleuse qu'elle est, tout comme j'ai pu découvrir aussi, vous voyez, c'est un triptyque pour moi, la réalisatrice Mathilde Vallée, voilà, avec qui je n'avais jamais travaillé. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui est vite épuisée en fin de journée tellement elle s'est donnée.
Ah oui.
C'est quelqu'un qui a des idées très précises, qui a un vrai point de vue sur les choses, c'est pas toujours le cas, et qui nous a accompagnés dans cette aventure merveilleusement, quoi. Bref, l'aventure était vraiment chouette.
Bon, en tout cas, un grand espoir qui est permis, c'est celui de Candice quand même, parce que ce personnage, ouais, il te colle tellement à la peau que t'as beaucoup de mal à t'en défaire, et la preuve est, c'est que bah, tous les ans, on y revient, et ça va être encore un cadeau en 2025 de découvrir un épisode inédit qui nous attend, puisqu'il a été tourné cet automne, je crois.
Il a été tourné, ouais, en septembre, pendant le Festival de La Rochelle. Là, on va découvrir une Candice Renoir détective privée. Donc, c'est génial parce que ça lui correspond tout à fait. Hein. Elle a plus d'injonctions, plus de hiérarchie, plus de rapports à rendre. Sauf que, en quittant la police, elle perd aussi tous les avantages d'être dans un cadre. Voilà, dans un cadre.
Mmh. Mais on compte sur sa perspicacité pour s'en sortir toujours.
Voilà, et toujours sur la comédie, absolument.
Bon, est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce que c'est déjà prévu, peut-être, de découvrir cette Candice détective sur d'autres aventures, sur un ou deux épisodes événements, peut-être, cette année?
J'espère toujours, mais c'est vrai que je suis toujours prévenue un peu au dernier moment. En général, on travaille toujours en amont sur les écritures. Là, je sais qu'il y a une idée qui a été proposée à la chaîne et à la production. Je sais pas trop où ils en sont, ce qu'ils font, mais j'espère bien, oui, qu'on va continuer et qu'il y aura au moins un épisode cette année.
Bon, en tout cas, c'est Made in France, c'est mercredi, la suite à partir de 21h05 sur France 2, c'est déjà en intégralité si vous pouvez pas patienter pour savoir la suite sur France.tv. N'hésitez pas en tout cas à aller découvrir cette superbe série qu'on vous conseille bien évidemment. Merci Cécile.
Merci beaucoup Alain.
On te dit à bientôt.
Ben, j'espère aussi.
Bah oui, à très vite.
T'as pas besoin de faire les présentations, hein?
Ça t'amuse?
De me retrouver avec mon mari et la femme avec laquelle il m'a trompé, pas vraiment.
Donc je suis censée dormir. Ouf. Désolée.
Ça arrive.
On oublie le cuir.
C'est osé.
On fait un sac à main vegan.
C'est radical, c'est féminité.
Toi et moi, c'est pas possible, c'est le milieu. Si tu veux qu'on ait une chance, il faut que tu quittes ce job.
Allez, ne bougez pas. Benjamin Voisin et Stéphane Crépon nous rejoignent dans un instant dans Chute en écoute la télé. C'est notre spécial Jouer avec le feu.
Chute en écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute en écoute la télé.
Je sais que c'est elle que t'aimes, mais est-ce qu'elle est au courant? Les câlins, les je t'aime, je sais que chez toi c'est pas courant. Tu fais que de la regarder, j'ai vu ton sourire dans ses yeux. Tu peux pas t'empêcher, même si pour aimer faut être deux. Alors qu'est-ce que t'attends? Ça fait déjà bien trop longtemps. Alors qu'est-ce que t'attends pour arrêter de perdre ton temps? Dis-lui ce que tu ressens, alors dis-lui tout de suite maintenant. Elle t'a dit si tu m'aimes, alors t'attends quoi pour le prouver? Elle t'a dit t'auras pas mon cœur avant de l'avoir mérité. Dis-lui que tu l'as dans la tête et quoi que tu fasses, tu ne peux pas vivre sans elle. Oui, c'est elle qu'il te faut, elle a aucun défaut. C'est elle qu'il te faut, ce qui se dit sur elle c'est faux. Oui, c'est celle qu'il te faut, t'en es tombé accro. C'est elle qu'il te faut, oui, c'est celle qu'il te faut. Ne te pose plus de questions, écoute ton cœur et vas-y fonce. D'avoir peur t'as aucune raison, dis-lui clairement ce que tu penses. N'aie pas peur d'échouer, car quand on veut on peut. N'aie pas peur d'échouer si c'est vraiment elle que tu veux. Je sais que tu penses à elle, car quand on parle tu n'écoutes pas.
Tu n'as Dieu que pour elle et nous les autres on ne compte pas. Elle te fait chavirer sans même te mener en bateau. T'es tellement amoureux que tu réagis comme un ado. Elle t'a dit si tu m'aimes alors t'attends quoi pour le prouver. Elle t'a dit t'auras pas mon cœur avant de l'avoir mérité. Dis-lui que tu l'as dans la tête et quoi que tu fasses tu ne peux pas vivre sans elle. Oui c'est elle qu'il te faut, elle a aucun défaut. C'est elle qu'il te faut, ce qui se dit sûr elle c'est faux. Oui c'est celle qu'il te faut, t'en es tombé accro. C'est elle qu'il te faut, oui c'est celle qu'il te faut. Je sais que c'est elle que t'aimes mais est-ce qu'elle est au courant. Les câlins, les je t'aime, je sais que chez toi c'est pas courant. Tu fais que de la regarder, j'ai vu ton sourire dans ses yeux. Tu peux pas t'empêcher, même si pour aimer faut être deux.
Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Salut, c'est Alessandra Sublet. On se retrouve bientôt avec Alain Jeanne dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré à Jouer avec le feu qui sortira ce 22 janvier au cinéma. Nous avons deux des héros qui sont avec nous. C'est un film de Delphine et Muriel Coulin. Et on a Stéphane Crépon qui est de retour parmi nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour, ça va ?
Ça va très bien, bonne année, c'est encore le moment, hein, puisqu'on est en ce début 2025, t'as terminé 2024 quasiment avec nous.
Ouais, c'est ça, dans les 4 premières semaines, on a encore le droit de se dire bonne année.
Exactement, c'était pour Drone, c'était en septembre, super film de Simon Buisson avec Marion Barbeau que t'étais venu défendre. Puis un habitué de l'émission qu'on a toujours grand plaisir, on a découvert un film qui nous avait subjugué, c'était La dernière vie de Simon. Et alors depuis, il y en a eu L'Esprit Coubertin et Benjamin Voisin justement est avec nous. Bonjour Benjamin.
Bonjour Alain et bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous revoir.
Eh ben écoute, ça nous fait plaisir de vous avoir là. On a pu voir le film en avant-première au festival du film de Sarlat en novembre dernier. On y découvre Pierre, personnage qu'incarne Vincent Lindon avec brio, qui élève ses deux fils, dont l'un va basculer ou va se faire un peu embrigader par un groupe d'ultra-droite en quelque sorte. Ça va déséquilibrer un peu toute la famille. C'est issu d'un livre, mais qu'est-ce qui vous a plu déjà, tous les deux en tout cas, Stéphane, Benjamin, dans les rôles que vous avez par rapport à toi déjà, Stéphane, le rôle de Louis?
Sur ce film-là, c'est pas tant le rôle qui m'a parlé, même si je le trouve génial, ce personnage, c'était la globalité du film, et plus précisément, les trois personnages, la globalité des trois personnages, c'est-à-dire ce rapport entre un père et ses deux fils, entre deux frères et leur papa. C'est l'amour entre ces trois hommes qui est venu tout de suite me séduire au premier plan.
Et qui est d'une beauté juste assez dingue, hein, on peut le dire. Benjamin, t'as plu toi ?
Alors moi deux choses. Première chose, j'en pouvais plus de pas tourner avec Stéphane. Ça fait 10 ans qu'on est potes, 5 ans qu'on était colocataires. On avait envie, on travaillait tous nos castings ensemble.
C'est ça, dans la vraie vie du coup ?
Ouais, dans la vraie vie.
C'est génial ça !
Même appart, machin, on vivait ensemble, on connaît tout l'un de l'autre. Et on bossait énormément ensemble, du théâtre au début, puis après des auditions, puis après les films. Je lui faisais travailler ses films, il faisait travailler les miens, avec pudeur. Et donc on s'est dit, peut-être on pourrait avoir un peu d'impudeur en travaillant ensemble, quoi. Donc du coup, là, c'était l'occasion de se rencontrer vraiment. Et puis, moi, j'arrivais à un endroit aussi de ma carrière où j'avais envie d'attaquer aussi des films plus politisés. Je trouve ça dommage pour un acteur de pas rentrer dans des trucs un peu plus profonds, parfois. Et c'est bien de raconter des histoires, mais c'est bien aussi de servir un petit peu la pensée contemporaine, quoi.
Ça vous a aidé tous les deux justement de bien vous connaître pour appréhender ces rôles de Louis et de Félix ?
Ah ouais, bien sûr. Bah c'était, enfin, je veux dire, c'est plus que ça a aidé, c'est que je pense même qu'on a été un peu choisi pour ça aussi. C'est justement pour cette complicité qui est évidente et voilà pour le fait qu'il y avait pas grand chose à forcer pour jouer deux frères, quoi.
Incroyable quand même, donner la réplique à Vincent Lindon. Il en impose, il a un charisme à l'écran qui est juste dingue quand même malgré tout. Et on peut dire que Félix lui tient à dragée haute quand même, hein, Benjamin.
Alors déjà, je voudrais souligner la dragée haute. La dragée haute, là.
Expression plus utilisée depuis 1972.
72, on l'a pas utilisé et on la remonte au niveau dragée haute. C'est depuis le 22 janvier avec le film. C'est en haut de l'affiche.
Exactement, ça va cartonner.
Haute, c'est tout là-haut. Ensuite, Vincent Lindon. Oui, on peut. Grosso merdo, hein, si on résume tout, on peut appeler ça un patron. C'est vraiment un patron. C'est quand on arrive sur le cinéma, on sait qui c'est Vincent Lindon, et quand on arrive sur un plateau, on sait encore plus qui c'est, et pour les bonnes raisons. Sa manière de jouer, sa manière de tout remettre en question, sa manière d'être essoufflé en fin de journée et dire voilà, j'ai donné tout ce que je pouvais, ce qui nous fait rire beaucoup avec Stéphane, mais ça a beaucoup de sens. Alors ça s'est pas passé sur ce film là mais il n'arrêtait pas de nous dire, quand quelqu'un nous dit elle est parfaite, en parlant d'une prise, est-ce que je peux en avoir une, Il dit, mais pourquoi faire? Si elle est parfaite, on s'arrête là. Tourner, c'est souffrir. Nous, un acteur, c'est pas facile de tourner. Alors du coup, voilà, il y a deux écoles. Il y a celui qui peut faire 40 000 prises, machin, et il y a celle de Vincent où je donne tout, et je me détruis, et puis si jamais on a la bonne prise, on a la bonne prise, et on s'arrête tout de suite parce qu'on passe à une autre séquence, parce que l'autre séquence aussi va me demander de l'effort. Donc pour nous, avoir notre facilité de vivre ensemble et notre assiduité au travail en face de Vincent Lindon, c'était quand même un très très beau cadeau. Je pense qu'il y avait, honnêtement, hein, il n'y avait pas meilleur partenaire pour ce film-là, pour notre rencontre à Stéphane et moi sur un film.
Alors Louis, c'est un peu le fils idéal en quelque sorte, enfin en tout cas c'est ce que Félix reproche, même si l'amour pour son frère est inconditionnel, et ça on le ressent évidemment. C'est le fils quand même qui s'apprête à rentrer à la Sorbonne, à faire de grandes études, qui va s'installer à la ville, à la grande ville, Paris. C'est vrai que voilà, ce fils-là, en tout cas, il y a vraiment un, on va dire qu'ils sont un peu diamétralement opposés.
Ouais, bah alors c'est déjà, tu le soulignes très justement, c'est l'amour qui est là quand même en permanence. On sent un amour inconditionnel entre les deux, et quelle que soit la manière où ils vont changer leur façon de penser, etc., ils vont continuer à s'aimer, sans trop dévoiler du film. On le sent même à la fin, dans ce que peut dire Louis et même ce que va dire Fouss en clôture du film.
Fouss, c'est le surnom de Félix, hein, voilà, on le dit.
Ouais, c'est le surnom du personnage de Benjamin, donc Félix. Mais oui, Louis, bah voilà, il a cette place-là dans le film de ça va être le symbole de la réussite, presque de l'ascenseur social, quoi, qui vient de cette famille et qui va aspirer à autre chose. Mais ce qui a été très justement dit, Benjamin disait ça dans une autre interview, en fait ils vont un peu tous les deux, en un sens, se trouver une autre famille. C'est-à-dire que le personnage de Félix Fouss va trouver une autre famille ailleurs. Le personnage de Louis aussi, lui, en fait, la trouve paradoxalement dans les études. Voilà,
ce personnage de Fouss renferme à la fois une certaine violence malgré tout, et à la fois quelque chose de fragile et qui offre une palette d'émotions, en tout cas que tu joues, tu nous fais passer par toutes les émotions, Benjamin, je dois te le dire quand même.
Oh putain, c'est sympa de ta part.
Non, mais c'est vrai, hein, je peux te dire que c'est totalement hallucinant, et quand on a vu le film, nous, avant tout le monde, il y avait toute la presse qui était là, on a tous été mais vraiment bluffés par déjà votre trio, tous les trois, par l'amour inconditionnel de ces deux frères, et par toutes les palettes d'émotions, en tout cas, qui nous ont été offertes dans le film, ça c'est sûr.
Eh ben les sœurs m'en parlaient, et ce sont de grandes réalisatrices, hein, franchement, ils vont être ravis, les autres acteurs, quand ils vont tourner avec eux après, avec elles, pardon, après. Surtout si c'est un succès le film, je l'espère. Elle m'avait demandé d'avoir quand même, Louis est très renfermé sur lui-même, sur ses études, et a très envie de fuir cette famille-là, ou en tout cas de la vivre avec une certaine distance. Le père est accablé par une tonne de choses, puis la maman étant absente, d'ailleurs c'est maman, mais ça aurait pu être un autre homme aussi, voilà, c'est l'autre partenaire étant absent, ça impose quand même un certain poids dans la famille. Pourquoi je disais tout ça? Simplement pour dire que les sœurs voulaient me ramener dans une forme dans le jeu, hein, avec ce rôle de vitalité, du coup elles me demandaient de jouer toutes les scènes différemment plein de fois. Chaque prise était différente les unes des autres, et que elles ont eu l'opportunité, pour le rôle de Félix, d'avoir un choix au montage assez large et varié, d'émotions, de sensations, de voilà tout ça. Et ça, je ne le fais pas quand j'ai pas confiance. Les sœurs Coulin, Muriel et Delphine, ont rapidement suscité en moi une grande curiosité de me dire, j'ai envie qu'elles aient tout au montage, parce que je crois totalement en leur
confiance,
en leur goût, quoi. Elles ont du goût. Elles savent ce que c'est le bon goût. Donc je donne tout.
Un trio d'hommes mis en scène par deux femmes, ça c'est extraordinaire quand même. Et vous allez voir que le film porte bien son nom. Ça s'appelle Jouer avec le feu. Ça sort ce 22 janvier. On écoute la bande annonce et on revient juste après avec vous deux, Stéphane, Benjamin. Restez avec nous. À tout de suite.
Qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
J'ai été pris à la Sorbonne aussi.
Qu'est-ce que je vais foutre, moi, avec mon BUT métallurgie?
Non, arrête.
On peut démarrer!
Hier, on collait des affiches pour la manif, et il y avait une bande de pieds nickelés qui taguait au bout des voies. Il y avait un gars qui avait la dégaine de ton gamin.
Qu'est-ce que tu fabriques, Fouss, hein?
J'accompagnais des potes.
C'est bien commencé, hein. Il y a des ténures. Il retourne la tête des gosses.
Ça ne gêne pas que t'en fasses ça là-dedans?
Quoi qu'il y a des potes ultra?
Non, non, c'est pas seulement des ultras, non.
Allez, c'est bon, je me casse d'ici. Je te laisse avec ton fils parfait. Fouss! Fouss!
pousse.
Jouer avec le feu, c'est le film à ne pas manquer évidemment au cinéma le 22 janvier. Stéphane Crépon et Benjamin Voisin sont avec nous pour continuer à en parler. Un film de Delphine et Muriel Coulin, issu d'un livre. Est-ce que vous l'avez lu tous les deux, le livre, avant, ou est-ce que vous l'avez peut-être interdit pour vous approprier aussi cette adaptation?
Alors on nous l'a pas interdit, moi je l'ai pas lu, je crois que Benjamin non plus, mais non, moi je l'ai pas lu parce que je voulais faire le film de Delphine et Muriel Coulin.
Donc tu te l'es interdit, on te l'a pas interdit, ouais, mais toi tu te l'es interdit.
Ouais, je me le suis interdit moi-même, et parce que je voulais entrer dans leur vision à elles, dans leur façon d'interpréter ce film, enfin d'interpréter ce livre, et donc dans leur scénario.
Toi, Benjamin?
Non, pareil, je l'ai pas lu parce que c'était à travers la vision du père et que je voulais garder mon autonomie sur le rôle de Félix. Parce que je trouve toujours que quand on joue un personnage secondaire, on est toujours un peu niqué par la voix du narrateur et la description des choses.
Alors on voit petit à petit cette bascule qui se fait justement chez Félix. On va voir qu'à un moment donné, il y a même un drame qui se passe, et on verra que ça va basculer, faire basculer la famille aussi dans cette histoire. Malgré tout, est-ce qu'il y a une scène particulière, vous, qui vous a marqué, que vous vous souviendrez très très longtemps en l'ayant tourné, par exemple, Stéphane?
Pour moi, je pense que c'est la première fois où le personnage de Louis prend un peu parti. Enfin, la première fois où il s'exprime de manière forte, quand le personnage de Benjamin et le personnage de Vincent sont à deux doigts d'en venir aux mains. Et c'est la première fois où il hausse un peu le ton et il dit en fait vous êtes complètement fous tous les deux, et où il montre, on comprend qu'en fait il en a marre de vivre entre ces deux hommes qui se déchirent en permanence.
Parce que lui, il prend jamais parti entre les deux, jusqu'à ce moment-là où il y a cette bascule, effectivement.
Jusqu'à ce moment-là, il prend jamais parti, et il va le prendre de plus en plus un peu au fur et à mesure du film. Je dirais que ça arrive à peu près à la moitié, et après, il va quand même un peu plus exprimer son avis. Mais il le fait toujours, il le fait jamais frontalement, et c'est jamais devant les deux. Il les prend plus à part l'un et l'autre.
Benjamin.
Moi je dirais quand même que c'est le Vincent Lindon, et il a gagné un prix d'interprétation à Venise. Il délivre une performance assez incroyable, et c'est notamment dû à un monologue de fin qui dure 10 minutes de Vincent.
On dira pas dans quelles circonstances, mais effectivement c'est incroyable parce que ça dure, hein. Le plan séquence est très long.
Ouais, ouais. Et c'était du coup, moi j'étais
un peu spectateur de ça. Totalement. Voilà ce qu'on peut dire.
Totalement. J'étais assez silencieux sur cette scène. Je sais pas pourquoi, j'ai pas le droit à la parole. J'avais l'occasion d'être quasiment au théâtre, et de voir ce que Vincent Lindon faisait après, j'en sais pas, je dirais 40 ans de métier, sur 10 minutes de monologue au cinéma.
C'est une leçon, hein?
Ouais, c'est une leçon, parce que moi j'ai fait beaucoup de théâtre, 10 minutes de monologue, je joue un monologue de 1h30, donc moi les monologues ça me parle énormément. 10 minutes de monologue dans une pièce, c'est pas compliqué pour nous, ça n'est que de la technicité, ça n'est que du travail, de la sueur, et des entourloupés un peu avec des formes, des choses et d'autres. Mais au cinéma, par rapport au théâtre, on vole les acteurs, on vole ce qu'il y a dans l'œil. Donc du coup, se faire voler pendant 10 minutes en plan séquence, c'est assez c'est quand même assez surprenant. C'est un truc de patron, quoi, encore une fois.
Delphine et Muriel, comment elles sont en tant que réalisatrices? Est-ce qu'elles vous ont laissé des fois une petite part d'improvisation, ou est-ce que c'était vraiment le texte au cordeau, ou est-ce que vous avez pu aussi peut-être proposer des petites choses tous les deux?
Ouais, c'était un alliage des deux, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de scènes où c'était très 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 écrit et où il fallait respecter vraiment le texte, on pouvait aller s'arranger un peu avec deux trois subtilités mais pas plus, et d'autres où elles nous demandaient au contraire d'être 100% nous-mêmes. J'ai des souvenirs de scènes, notamment quand on est juste tous les deux, où elles nous disent « Bon, bah là, les garçons, voilà, on met la caméra. Vous savez que vous avez un point de rendez-vous qui est à un moment où vous faites un peu trop de bruit et ça va appeler votre père. Mais avant ça, bah faites ce que vous voulez. Juste vous déconner entre vous. » Ou même des moments, je sais plus si elles l'ont mis dans le film ou pas, mais il y avait plein de moments où elles nous demandaient juste de vivre tel qu'on était. Elles nous mettaient dans le jardin ou dans une pièce. Elles disaient « Bon, bah allez, là, parlez entre vous, là. Faites improviser, parlez comme deux frères. Faites votre vie, en fait. »
C'est génial, ça.
Ouais, bah c'est jouissif, c'est libérateur. Surtout quand il y a ce cadre aussi à côté d'avoir des trucs, et c'était la majorité du film, hein, très 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 comment dire, balisé, où on sait qu'on est en sécurité, on se laisse un peu guider et porter. Parce que je pense que faire un film entier en improvisation, bah ça peut un peu partir dans tous les sens à un moment et perdre, je veux dire, de la tenue. Là, pour le coup, on était serein, et donc ces moments de liberté qu'elle nous offrait dans ces improvisations, bah ça devenait une respiration.
Pour toi, Benjamin?
Pareil.
Jouer avec le feu, le film de Delphine et Muriel Coulin, ne pas rater, avec Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Stéphane Crépon. Vous allez voir, vous allez passer en tout cas un très très bon moment avec ce trio d'hommes incroyables qui va vous faire passer par toutes les palettes d'émotions possibles pendant presque 2 heures. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci Alain, je t'embrasse.
Il va falloir arrêter de minimiser.
On dirait que c'est jamais assez bien pour toi ce qu'il fait.
On n'est pas obligé de tout faire comme toi. Hein.
T'avises pas à l'entrée de ton frère dans tes putains d'histoires, t'as compris? Tu gâches ta vie si tu veux, mais pas la sienne.
Tu peux rien contre moi.
J'ai l'impression que c'est devenu quelqu'un d'autre. Si ta mère te voyait, je te jure.
T'as dit quoi?
J'ai dit si ta mère te voyait.
Tu dis pas, c'est quoi? Tu répètes plus jamais ça de ta vie. T'entends?
Bien sûr.
T'entends?
Arrête.
C'était un enfant comme un autre. Si j'aurais fait l'histoire dans ma tête, mille fois je me suis dit qu'elle aurait pu terminer autrement. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je savais qu'il tournait mal. Je pouvais pas lutter tout seul.
Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Et on va ouvrir tout de suite notre page spéciale Festival de l'Alpe d'Huez, le palmarès de cette 28e édition qui s'est déroulée donc la semaine dernière du côté de la célèbre station de ski. Et donc samedi soir avait lieu la remise des prix. Et donc le coup de cœur Canal+ du meilleur film, le prix Canal+ des abonnés Canal+ qui était au nombre de 4, eh bien a été décerné au film Avignon de Johan Dionnet. Et puis le coup de cœur des Alpes qui était parrainé notamment par Thomas Sisley, ainsi que des moniteurs de ski, lui a été également attribué à Avignon. Déjà deux prix pour le premier film produit par Johan Schrerm chez Nolita. Johan, réagissait à notre micro.
Oui, tout à fait, c'est le premier film que je produis en long métrage pour Nolita avec Maxime Delaunay et Romain Rousseau. Et on est absolument ravis parce que c'est une aventure qu'on a commencé à 4 ans avec un court métrage qui était venu et qu'on avait projeté à l'Alpe d'Huez et qui avait reçu un bel accueil. Et là, maintenant, 4 ans après, on arrive avec le long métrage et avec ce tel succès, c'est super. On a du mal à réaliser, mais ça nous fait très plaisir pour la suite de l'aventure. C'est que le début, on vient de terminer le film à peine. Donc là, recevoir ce prix, notamment le prix des abonnés Canal, le prix de la région, ce sont des prix qui comptent énormément pour nous.
Le grand prix, c'est la cerise sur le gâteau.
Et un grand prix, c'est qui arrive à la toute fin, magnifiquement remis par Elsa Silberstein, et c'était vraiment un sacré moment. Je pense qu'il va nous falloir quelques heures pour redescendre de ce petit nuage, de cette montagne.
On se connaît depuis plusieurs années, tu es passé de la distribution à la production. Tu regrettes pas, j'imagine, aujourd'hui?
Absolument pas. J'ai eu une opportunité fantastique avec justement Maxime et Romain de chez Nolita qui m'ont proposé de venir faire de la production avec eux. Ils m'ont appris ce métier-là et là maintenant, en fait, quand j'ai la possibilité d'accompagner des talents comme Johan Dionnet du court-métrage au long-métrage ou bientôt Chloé Joannet qui a aussi gagné un prix l'année dernière avec son court-métrage et sur lequel on travaille sur un long-métrage, et ben moi ça me ravit au plus haut point. On avance comme ça avec des talents qui ont énormément d'idées et des nouvelles visions de cinéma, et ça pour moi c'est ce qui me manquait côté distribution. C'était très formateur, mais maintenant c'est là où je m'éclate le plus.
Merci Johan, on rappelle 3 prix pour Avignon qu'on pourra découvrir courant mai-juin au cinéma. La date n'est pas encore arrêtée tout à fait, mais elle ne devrait pas tarder à tomber évidemment avec ce gros succès au Festival de l'Alpe d'Huez. À bientôt. Et le prix du meilleur court-métrage parrainé par Ciné+ OCS a été attribué au court-métrage Des Doigts en Or avec Nicole Ferroni de Christophe Leroux, qui a réagi également à notre micro avec beaucoup d'émotion.
Ah bah je me sens heureuse là, je me sens vraiment émue, heureuse, encouragée, acceptée, tout ça. Voilà.
C'est un sacerdoce de faire un film aujourd'hui quand on est récompensé par le meilleur court-métrage. Ça donne déjà des ailes pour commencer peut-être la préparation d'un long, pour avoir des rêves de long métrage.
Oui, exactement. Exactement, ça nous encourage. Et puis, vous savez, dans ce milieu-là, on a souvent le syndrome de l'imposteur. Enfin, c'est quelque chose qui nous poursuit des années. On a l'impression qu'on n'est pas à notre place, etc. Et ces genres de moments intenses, ils viennent confirmer, ils viennent donner un coup de pouce. Ils nous disent, vas-y, il faut y aller, il faut continuer à écrire. Voilà, j'ai reçu de l'amour aujourd'hui, c'est une façon de l'acceptation aussi, donc du coup c'est beau.
Bravo Christian.
Merci.
À bientôt.
Avec plaisir.
Et on continue avec le prix d'interprétation masculine qui a été attribué à Benjamin Laverne pour son rôle dans Le Mélange des genres. Michel Leclerc, le réalisateur, a réagi à notre micro et a emmené justement le trophée pour le remettre à Benjamin à Paris.
Ah bah oui, je suis très heureux. Je suis pas heureux que Benjamin soit pas là pour recevoir le prix, mais comme il est toujours sur une scène de théâtre, il pouvait pas être là ce soir. Mais en tout cas, je suis très heureux parce qu'on a vraiment aimer travailler ensemble. On a vraiment réfléchi au personnage et je sais pas, il a fait comme une création de personnage quoi, et moi je suis très heureux de ça. Et Benjamin est un prodigieux acteur, comédien.
C'est à nouveau une reconnaissance de son talent immense quoi.
Bah oui, c'est ça, c'est un acteur qui sait tout faire, qui sait tout faire avec son corps par exemple. Il sait comment marcher, il sait comment courir, il sait comment s'asseoir, il sait comment bâiller, il sait comment, enfin voilà, il sait comment tomber. Et tout ça, c'est très important quand on veut qu'un personnage sorte, enfin, marque, quoi. Et je pense que là, le jury a été sensible à ça.
Le Mélange des genres sortira le 16 avril, si tout va bien, au cinéma, en tout cas, mon cher Michel. Et tu seras avec nous juste avant, évidemment, pour en parler avec toute une partie de ton équipe, Melra Bedia et Léa Drucker, évidemment. Merci à toi.
Merci, merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Quant au prix d'interprétation féminine, c'est un doublé gagnant pour le film d'Enya Barou, le premier film d'Enya Barou, On ira, puisqu'il a été attribué ex aequo à Juliette Gasquet et Hélène Vincent, absolument indissociables dans ce film On ira, qui sortira le 12 mars prochain. Hélène Vincent et Juliette Gasquet étaient à notre micro.
C'est un gros plaisir.
Ça, on ira.
Oui.
Pour le film, on ira. Oui.
D'Enya Barou.
D'Enya Barou.
C'est un grand plaisir de le recevoir à deux.
Ah, c'est magnifique. Ouais.
C'est le plus beau cadeau qu'on pouvait vous faire.
Ah, mais ça pouvait pas être mieux. Franchement, ça pouvait pas être mieux.
Oui, oui.
Oui, ou alors à dire un prix pour l'ensemble des comédiens de ce film. Mais là, c'est tellement émouvant. Hein, c'est délicat d'avoir pensé à ça.
Juliette, c'est ton premier prix.
Oui.
Ça fait quoi?
J'ai du mal à réaliser, mais je sens qu'il y a de la joie, quoi, ça.
Ça sent dans ta voix, en tout cas. On ira sort bientôt au cinéma, c'est en mars, si je ne me trompe pas.
Oui, oui, c'est, je crois, le 12.
Et vous serez avec nous pour en parler, en plus. Absolument. C'est beau, on vous invite dans Chute, on écoute la télé très vite. On ira, c'est le film à ne pas rater de ce début de printemps, en tout cas. Merci les filles. Et c'est une mention spéciale du jury qui a été attribuée pour le premier film de Mourad Winter, L'amour, c'est surcoté, qui s'est vu décerner ce prix de ce film avec Laura Felpin et Hakim Djemili. Et puis le prix spécial du jury, lui parrainé par Transperfect Media, a été attribué au film Les règles de l'art de Dominique Baumard, qui a réagi également à notre micro.
Je me sens soulagé après 5 ans de préparation, de financement, à chaque instant le film peut passer. Quand enfin on voit le film devant, sur un écran devant un public, et qu'en plus on a un prix, c'est vraiment une sorte de miracle. Moi, je veux faire des films depuis que j'ai 15 ans. Et donc, j'ai l'impression d'enfin faire mon métier.
C'est un vrai sacerdoce pendant 5 ans, justement, de faire un film. La première projection, comment vous l'avez vécu?
Ah, moi, je suis terrorisé par les premières projections. Je transpire, c'est affreux à voir. Mais j'étais content parce que moi, j'ai vraiment envie de faire des films où les gens s'ennuient pas. Et je sentais que l'histoire intéressait les gens, qu'il y avait une attention. Et ça, moi, vraiment... C'est mon objectif dans la vie de ne pas ennuyer les gens.
Melville Poupeau et Sofiane Zermani, le film sort quand?
Il sort le 30 avril.
Et bien rendez-vous au cinéma pour découvrir Les règles de l'art. Merci beaucoup Dominique.
Merci à vous.
Et s'il y a un prix qui est important, c'est bien sûr le prix du public. Le prix du public a voté et donc a décerné son prix au film Le Répondeur de Fabienne Godet avec Salif Cissé et Denis Podalydès. Et justement, ça tombe bien, Fabienne Godet était à notre micro pour réagir.
Eh ben, je suis super émue parce que pour moi, c'est le meilleur prix. C'est celui que je voulais. C'est celui qui plébiscite, en fait, le fait que les gens aient aimé le film, quoi, en fait. Et qu'ils aient été émus, qu'ils ont ri, et voilà. Donc c'est le plus beau prix. Je ne pouvais pas rêver mieux, en fait.
À qui vous le dédiez, ce prix, aujourd'hui?
Ah, je le dédie déjà à tous les gens que j'aime, mais j'aurais envie, le dédier peut-être pas, mais le partager vraiment avec tous mes comédiens. Et peut-être tout particulièrement, ils ne m'en voudront pas, Salif Cissé.
Il est incroyable.
Il est juste incroyable. Il méritait le prix d'interprétation pour moi. Mais bon, il faut partager.
Exactement, le répondeur prix du public, c'est le choix du public. Fabienne,
bravo.
Fabienne, le film sort
Le 4 juin.
Le 4 juin. Et puis, on vous invite évidemment à venir en parler dans l'émission, juste avant la sortie, pour venir le présenter.
Oui, et j'espère que les spectateurs qui ont voté vont nous accompagner dans la sortie de ce film, j'en suis sûre.
Et il est toujours très attendu, c'est le Grand Prix du Festival de l'Alpe d'Huez, celui qui peut tout changer à la carrière d'un film. Et c'est donc un triplé gagnant pour le film Avignon qui s'est vu décerner ce Grand Prix. Le film de Johan Dionnet, son premier film tiré de son court-métrage. Et on a eu d'ailleurs Johan Dionnet à notre micro pour une réaction à chaud.
Allez, après le Johan producteur, c'est le Johan réalisateur qu'on va accueillir, ce coup-ci Johan Dionnet, pour ses trois prix accordés à Avignon, un prix tellement mérité. Ça va être la comédie romantique d'avant l'été à ne surtout pas manquer au cinéma. Johan, est-ce que tu pouvais imaginer une issue pareille à ce festival de l'Alpe d'Huez?
Non, absolument pas. Absolument pas. J'étais déjà extrêmement heureux d'être sélectionné. Il s'est passé quelque chose à la projection d'un peu magique. J'ai senti que les gens avaient été conquis. En tout cas une partie des gens. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant que ça leur avait plu, qu'ils avaient ri, qu'ils avaient été touchés. Donc pour moi, c'était déjà gagné, quoi. C'était déjà gagné.
Je me rappelle du petit Johan qui était venu présenter Je joue Rodrigue il y a quelques années. Ouais. Le grand Johan aujourd'hui, il en pense quoi?
Il a envie de dire que j'ai bien fait de m'accrocher. J'ai bien fait de me dire que cette histoire pouvait toucher des gens, je crois. Voilà.
Une mise en lumière de Avignon magnifique en plus.
Merci. Ouais, merci. Ça, c'est aussi grâce à toute mon équipe, l'équipe artistique, l'équipe technique. Ils ont fait un travail vraiment remarquable. J'ai eu énormément de chance parce que j'ai été accompagné par des artistes, des artisans, des gens qui ont du talent et qui sont généreux. Et tout le monde avait envie. Tout le monde avait envie de faire ce film avec le cœur.
De faire un beau film, tout simplement.
Oui, enfin, un beau film. En tout cas, faire un film avec le cœur. Je ne sais pas ce que ça veut dire beau ou pas beau, mais en tout cas, je peux vous garantir qu'il a été fait avec le cœur.
Pour qu'il ait trois prix, c'est que on l'a bien ressenti, en tout cas.
Écoutez, je vous remercie beaucoup.
Merci Johan, en tout cas le film sortira avant l'été, de toute façon au cinéma. Tu viendras avec Elisa Erka en parler, ta Fanny du film, oui. Et puis on va tout faire pour que tu viennes le présenter dans notre région aussi, on va rien lâcher, on sera à tes côtés.
Avec grand plaisir et merci pour ton soutien depuis toutes ces années, merci beaucoup.
Et ça va être l'heure pour nous des remerciements. On va en profiter pour remercier évidemment déjà monsieur le maire de l'Alpe d'Huez, Jean-Yves Noiret. Merci à toutes les équipes d'agence Tournée Générale, Clément Lemoine et Frédéric Cassoli, et toutes les équipes d'Alexandre Di Carlo au service presse qui nous ont beaucoup aidés. Merci à tous les attachés de presse qui nous ont beaucoup aidés pendant ce festival. Je pense à la petite boîte au bureau de Florence Narosny et bien d'autres encore évidemment qui nous ont apporté plein d'artistes à vous proposer dans les semaines qui arrivent. Et puis évidemment, on n'aurait rien pu faire sans eux. C'est nos partenaires grâce à qui nous avons pu nous déplacer, grâce notamment à notre partenaire Volkswagen Marraine et Eric Guillet. Et puis merci infiniment évidemment à l'hôtel Le Castillan et restaurant chez Jules sur place, et à Stéphanie et à Julien Castillan qui nous ont accueillis pour la 11e année consécutive dans leur superbe hôtel qu'on vous conseille évidemment si vous êtes de passage à l'Alpe d'Huez, d'aller leur faire un petit coucou et de séjourner chez eux pour des vacances, c'est sûr, réussi. Merci encore infiniment donc à tous. Ainsi se referme cette 28e édition du Festival de l'Alpe d'Huez. On vous dit à très bientôt du côté des Alpes.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On aura deux coups de cœur ciné. Le premier consacré à La Pivoleuse de Robert Guédibian qui sera notre invité. Et puis on aura également toute l'équipe du film Le Choix du Pianiste qui seront avec nous. Oscar Lesage, Pia Lagrange, la productrice, le réalisateur André Manoukian. Ils seront tous là pour venir parler de ce film. J'en profite aussi pour vous rappeler que toutes les vidéos, les photos, tout ce qu'on a fait au Festival de l'Alpe d'Huez tout au long de la semaine dernière sont disponibles sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et j'en profite encore une fois pour remercier aussi l'hôtel Le Castillan pour son accueil du côté de l'Alpe d'Huez, une adresse évidemment exceptionnelle du côté de l'Alpe d'Huez. Si vous y allez en vacances, profitez-en en tout cas pour aller leur rendre une petite visite.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chut, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.